Nutra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.
Bonjour docteur Méran, bonjour Sarah.
Bonjour Fabrice, comment ça va?
Vous n'êtes pas deux, hein, je vous appelle voilà, docteur Sarah Méran. Sarah, on est ravis de vous accueillir pour terminer la matinée, voyez, entre 11h et midi, le jeudi, ça fait plaisir. Et alors si vous nous écoutez en podcast, ce que je dis là n'a aucun sens parce que aussi bien il est minuit, vous allez vous endormir. Ou peut-être, j'en sais rien, moi il est 7h du matin et vous allez au travail. Extra time, histoire de jouer les prolongations dans notre vie et en bonne santé. On a parlé des sirtuines la semaine dernière, vous vous souvenez? Les petites queues, les machins qui collent pas. Bon, c'était instructif. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Sarah.
Ah bah moi j'adore. Je trouve que c'est passionnant de voir comment l'organisme trouve des solutions pour s'adapter aux différentes agressions de la vie et comment on peut optimiser tout ça pour vieillir avec une super patate.
Ben oui, non, mais c'est vrai que c'est passionnant. Et plus on va dans le détail des actifs, des protéines, etc., on se dit, mais quel fonctionnement, tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme, ben oui, c'est, voilà. Il était une fois la vie. Il devrait peut-être en faire un dessin animé.
Je sais pas, vous avez écouté, c'est clair, faudrait peut-être développer le concept, ouais, c'est une bonne idée.
Ah, on va reparler, je sais pas d'ailleurs, en parlant de dessin animé, où sont tombés les droits, peut-être qu'aujourd'hui pour un franc symbolique, un euro symbolique, pardon, on peut peut-être se les approprier, ce serait bien ça de se refaire toute la série, il était une fois la vie. Bon, on va pas en parler aujourd'hui, puisqu'à l'époque d'ailleurs de ce dessin animé, on parlait pas trop de microbiote. Je sais pas si vous vous souvenez, on en parlait quasiment.
Si. Il y avait la petite Escherichia coli dans l'intestin qui était noire et qui permettait déjà de lutter contre les infections et qui aidait les globules blancs qui étaient dans leur petit vaisseau pour lutter contre la gastro.
Ah, vous avez un bon souvenir de ça, c'est pour ça que vous êtes devenu médecin.
Ça m'a beaucoup inspiré.
Ah, bah, je ne m'en souvenais pas, bah, vous voyez, voilà. Ok, il y avait déjà les Escherichia coli.
Ouais, elle était toute en noir.
Très bien. Bon, allez, je vous laisse aller à vos archives, ceux qui ont la collection. De toute façon, dès qu'on commence à mettre le doigt là-dedans, c'est fascinant, on se fait toute la série. On va parler aujourd'hui donc du microbiote et de la longévité. Microbiote, longévité, comment notre intestin en bonne santé peut soutenir le vieillissement en pleine forme, Sarah.
Tout à fait. Alors, le microbiote est essentiel pour tout.
Alors, je vous disais en antenne la semaine dernière, parce qu'il faut quasiment tout dire aux auditeurs. Je vous disais, Sarah, autant il y a des intervenants qui font des phrases très très longues, autant vous, c'est court. Et vous m'avez dit, oui, c'est mon style télégraphique.
Tout à fait.
Bon, droit au but. Quels sont les principaux rôles du microbiote intestinal dans la régulation des processus qui sont liés à la longévité et comment il soutient la santé globale au fil du temps? Voilà, première question, elle est tombée aussi télégraphique que votre réponse.
Bah, on sait que le microbiote joue un rôle notamment sur nos défenses immunitaires. Donc déjà, ça nous protège contre les agressions. On sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées, bah, quand elles décèdent, c'est souvent suite à une pneumonie, donc à un dérèglement du système immunitaire. Oh, pneumonie, c'est un exemple, hein, mais ça veut dire que c'est souvent infectieux. Lorsqu'une personne s'affaiblit, c'est l'infection qui finalement finit par l'emporter. On sait que le système immunitaire participe à la régulation de l'inflammation. On sait que le microbiote participe à la régulation également du vieillissement cérébral sur notre santé mentale, mais également sur le risque de maladies neurodégénératives. On connaît le lien entre le microbiote et les pathologies cardiovasculaires, etc. Et on sait que ces pathologies, elles apparaissent en général avec le temps. Donc, on sait qu'il y a peut-être le renouvellement cellulaire, il y a l'accumulation d'erreurs, etc. Mais on sait que le microbiote vieillit aussi et donc participe au développement de ces pathologies du vieillissement.
Après, c'est un peu logique hein, que le microbiote il vieillit aussi comme nous. Personne n'échappe à cette loi du temps, on va dire. Mais alors, comment, puisque vous avez parlé d'inflammation, comment ce microbiote il va influencer donc, les marqueurs inflammatoires dans le corps et aussi qu'on parle souvent d'inflammation de bas grade. Pourquoi cette inflammation chronique elle est souvent associée au vieillissement accéléré?
Alors, du coup, le microbiote, au fait, on sait qu'on a un certain nombre de bactéries qui sont plutôt sympas, qui sont plutôt anti-inflammatoires, qui participent à la tolérance immunitaire. Et on a un certain nombre de bactéries qui sont considérées comme plutôt pro-inflammatoires. On parle notamment de bactéries à bacille gram négatif qui entraînent la production d'une espèce de toxine qui est sur leur paroi, qui peut diffuser notamment dans l'organisme. Et on parle du coup d'endotoxémie métabolique à l'hypopolysaccharide. Et cette toxine, elle peut être reconnue par quasiment tous les tissus du corps humain et à ce niveau-là déclencher de l'inflammation. On a des récepteurs au niveau de la microglie du cerveau, on a des récepteurs au niveau osseux sur les ostéoclastes, on a des récepteurs au niveau des cellules Kupffer du foie, etc.
Alors, il va falloir que vous répétiez, vous savez, vous l'avez prononcé rapidement en pensant qu'on l'avait évidemment acquis, mais il va falloir répéter, j'ai même oublié, vous voyez, je m'étais dit ça, il faut que je le note, même pas le temps, j'ai dit oublier le mot que vous avez cité, ces deux mots.
L'endotoxémie métabolique?
Oui, voilà, qu'est-ce que c'est que ça?
Au fait, l'endotoxémie métabolique, c'est quand ce lipopolysaccharide passe la barrière de l'intestin et diffuse dans la circulation sanguine, donc cette toxine, va aller se fixer un peu partout. Alors, elle est transportée par un transporteur protéique qui s'appelle la lipoprotéine binding protein. Et du coup, ce petit transporteur va emmener va emmener cette toxine un peu partout dans le corps où elle va déclencher de l'inflammation.
Wow. On va voir tout à l'heure ce qu'on peut faire, justement, s'il y a des solutions en micronutrition, peut-être, voilà, ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, mesdames, messieurs, c'est de faire une première pause et on se retrouve juste après ceci, c'est sur Nutri Radio, restez avec nous.
Extra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.
Le docteur Sarah Méran sur Nutri Radio, on parle du lien entre le microbiote et la longévité. Alors forcément, il y en a un et vous avez commencé à expliquer lesquels. On parlait d'inflammation et notamment comment le microbiote, juste avant la pause, il influençait ses marqueurs inflammatoires dans le corps. Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit parce que évidemment, référez-vous à Nemo. Mais le podcast de cette émission sera dispo à partir de 18h. Non mais c'est vrai que ce dimanche, hein, mais c'est vrai que vous utilisez des mots. Pourtant je fais des efforts pour me souvenir de quelques mots simples, mais là ça me paraît complexe. Même si l'explication que vous en avez donnée, cette diffusion là, des toxines un peu partout dans le corps qui va créer de l'inflammation, là c'est très clair. Donc lien entre microbiote et immunité, comment un microbiote sain, il va contribuer à la prévention des maladies liées à l'âge.
Alors en fait, un microbiote sain, le microbiote intestinal, par différents mécanismes, en fait, influence déjà la qualité de la barrière intestinale. Certaines bonnes bactéries vont soit produire des molécules qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, qui vont avoir un impact sur la régulation des gènes, sur l'énergie que va avoir pour nourrir, entre guillemets, nos cellules intestinales, comme le butyrate qui va nourrir les colonocytes, donc les cellules du côlon. Le microbiote, par différents mécanismes, va éduquer le système immunitaire à agir de façon adaptée à une agression. Donc, les bonnes bactéries, c'est un peu des éducateurs spécialisés du microbiote. Les bonnes bactéries peuvent participer aussi à la création et à la stimulation de la synthèse des joints d'étanchéité entre les cellules intestinales. Donc, transformer notre barrière intestinale dans une forteresse imprenable. Et participent également les bonnes bactéries à la sécrétion d'un mucus, donc j'appelle ça moi en consultation les douves du château, pour qu'elles soient suffisamment larges pour éviter que des pathogènes, des toxines puissent rentrer dans l'organisme. Et donc ils font partie intégrante de la qualité de la barrière intestinale et de notre étanchéité.
Alors les bonnes bactéries qui font partie de la bonne qualité de notre barrière intestinale, il y en a énormément. Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on les a toutes identifiées, ces bonnes bactéries, ou est-ce qu'il y en a encore à découvrir qui pourraient nous apporter aussi des solutions thérapeutiques, une meilleure compréhension aussi de ce microbiote?
Je pense qu'on est au début des découvertes, donc on en a découvert quelques-unes, on a découvert quelques familles de bactéries, on sait que les bifidos sont hyper intéressantes, les bifidobactéries, on sait les lactobacilles sont intéressantes, on sait qu'Akkermansia est intéressante, mais il y en a certainement beaucoup d'autres qui le sont, qu'on n'a peut-être pas encore découvertes. Et puis, les bactéries peuvent elles-mêmes être infectées par des virus qui peuvent modifier leur fonctionnement. Donc, du coup, même une bonne bactérie peut changer un petit peu, ou en fonction de son environnement, une bonne bactérie peut devenir, en fonction de sa concentration, plutôt sympa ou pas sympa. Par exemple, on sait qu'Akkermansia est bénéfique pour la création du mucus, donc crée aussi un terreau fertile pour l'implantation des bonnes bactéries. Mais en excès, on a démontré qu'elle pouvait également avoir un effet très toxique sur les mucus, voire sur certaines maladies rénales.
C'est un peu comme...
C'est très compliqué et on est au tout début des découvertes et qu'une bactérie toute seule ne peut pas être responsable soit de quelque chose de positif ou de quelque chose de négatif. C'est souvent un environnement, un contexte et une collaboration entre différentes bactéries qui fait au fait le résultat.
C'est bon, c'est un peu pareil avec les potes. Vous savez, il y a des potes, c'est bien, on les voit, mais parfois ils peuvent se révéler, ou des amis, ou je sais pas, vous savez, il y a des gens comme, trop, c'est pas bon. Parfois, il faut prendre
ses
distances.
Alors, c'est comme d'habitude, le milieu, c'est de la vertu.
Exactement, la politique du milieu. Mais alors, on parlait tout à l'heure de cette dissémination de petites toxines qui allaient créer de l'inflammation. Est-ce qu'on a, en micronutrition, il y a des actifs d'intérêt pour limiter cela ?
Oui. Alors, par exemple, on a montré, par exemple, que la quercétine participer pour renforcer les joints d'étanchéité entre les cellules de l'épithélium intestinal. Donc déjà, en nous rendant plus étanches, bah, il y aura moins de toxines ou même de bactéries qui pourront rentrer dans l'organisme. On a démontré que le zinc participait aussi à la qualité de ces joints d'étanchéité. La vitamine D aussi avait un intérêt, la vitamine A. On a montré que certains probiotiques aussi pouvaient être intéressants pour justement créer un terrain, non sympathique pour que ces mauvaises bactéries se développent. On a montré que les oméga-3 favorisaient au niveau des bonnes cellules de l'intestin la création d'une molécule qui séquestrait ou qui handicapait fortement ces mauvaises bactéries gram négatives. Donc en fait, on a plein de petites stratégies en micronutrition pour nous rendre de nouveau étanches et suivant notre patient, suivant son terrain, eh ben, on les associe plus ou moins pour pouvoir limiter justement cette diffusion de toxines dans l'organisme et sa toxicité osseuse, cardiovasculaire ou neurologique.
On va marquer une dernière pause et on se retrouve avec le docteur Sarah Méran. C'est juste après ceci, c'est sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Extra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.
La dernière partie de cette émission avec le docteur Sarah Méran, c'est sur Nutri Radio. On parle du lien entre le microbiote et la longévité, car il y en a un, voyez-vous. Un microbiote sain permet de contribuer au ralentissement de cette vieillesse. La vieillesse. Sarah Méran.
Bon, oui.
Est-ce que ça vous pose un problème, d'ailleurs ? Il y a un problème ? Est-ce que...
Non, pas du tout.
Mais vous savez, bon, on va rien dire, mais il y a des gens comme ça qui vieillissent très très bien. Mais je peux pas vous dire, j'allais dire dont vous faites partie, mais je vous ai pas connu avant. Donc peut-être que là, par rapport à avant, même au niveau du caractère, c'est un désastre, j'en sais rien.
Voilà, c'est ça. J'ai pris un sacré coup de vieux.
Bon, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour ralentir ce vieillissement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font très jeunes et d'autres qui, au contraire, alors qu'ils ont un âge pas si avancé que ça, paraissent déjà très, très marqués et très avancés en âge. On peut appliquer... Voilà, bon, il y a le sport, etc., mais on peut aussi, par des mécanismes que vous nous expliquez chaque semaine, eh bien, ralentir ce processus de vieillissement. Est-ce que, puisqu'on parle du lien entre ce microbiote et la longévité, est-ce que la diversité microbienne, on sait que c'est un indicateur de santé et de longévité, mais comment on peut la favoriser, cette diversité, à travers les habitudes de vie et l'alimentation ? Parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il faut manger de moins en moins de choses. Il y a des régimes parfois un peu stricts, mais il faut diversifier ces microbes.
Eh ben, au fait, c'est tout l'art du bien vieillir. En fait, pour optimiser son microbiote en vieillissant, au contraire, il faut varier le type d'aliments qu'on mange, pas toujours manger pareil. Moins l'aliment sera transformé, moins il aura de conservateurs, qu'il aura été en contact avec des pesticides, etc., plus il sera potentialisateur d'un microbiote de qualité. Il faut manger de saison. Par exemple, là arrive l'hiver, donc on se dit, bah tiens, il y a moins de légumes, etc., ou moins de fruits. Oui, mais il y a des légumes d'hiver comme qu'on va pouvoir utiliser dans les soupes, comme les topinambours, les panais, etc., qui ont un impact extrêmement positif sur le microbiote. Donc, les légumineuses sont hyper intéressantes. On dit que, par exemple, une cuillère à soupe de légumineuses, c'est excellent pour entretenir une bonne qualité, une bonne diversité du microbiote. Mais également rencontrer des gens, la vie sociale. Par exemple, on a montré qu'un impact qui favorisait le vieillissement du microbiote des personnes âgées, c'est le fait qu'elles étaient souvent en vase clos, qu'elles rencontraient les mêmes choses, les mêmes personnes et qu'elles faisaient les mêmes choses.
Alors, par contre, là, sur ce sujet, il y a des personnes âgées qui vivent chez elles tranquillement, et dès qu'on les met en EHPAD, en collectivité, c'est la fin.
Alors oui, mais en EHPAD et en collectivité, alors il faut voir la qualité des aliments qu'on leur donne.
La qualité des EHPAD aussi.
Et puis, la qualité de est-ce qu'ils vont pouvoir le manger ou pas? Est-ce que ça va être digestible ou pas? Est-ce que les dents vont être adaptées aussi? Est-ce qu'on leur a mis leurs dentiers? Est-ce qu'on a coupé suffisamment petit la viande, etc. pour que ce soit assimilé? Et puis, dans un EHPAD, c'est un environnement médical. Donc, médicalisé. Donc, il y a beaucoup de désinfectants en permanence. Il y a du gel hydroalcoolique, il y a des trucs comme ça, alors que finalement, le fait de diversifier, d'être dans un environnement, je dirais, non aseptisé et non médicalisé, eh ben, au fait, ça a démontré que ça permettait d'optimiser le microbiote.
Alors là, on va aller dans un domaine qui reste un peu, enfin, en tout cas pour ma part, assez peu connu, mais dont on parle de plus en plus, qui sont des pistes de recherche. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Sarah, mais certainement, puisque moi j'en ai entendu parler, les transplantations de microbiote. On dit que c'est un peu efficace ou que c'est une piste pour restaurer un équilibre favorable à la santé. Vous en avez entendu parler, vous connaissez les potentiels et peut-être les limites de cette pratique?
Alors moi je trouve ça hyper intéressant le transfert de matière fécale pour traiter certaines pathologies. Aujourd'hui en France c'est utilisé que pour traiter les infections à Clostridium difficile pour lesquelles on est dans une impasse thérapeutique. Après, je trouve ça génial dans le concept. D'ailleurs, il y a un vétérinaire que j'ai vu en formation de phytothérapie qui utilise, je crois, les crottes de looping, son chien qui n'est jamais malade, pour traiter des animaux qui ont des gastro, qui ont de l'eczéma, etc. Donc, il fait des gélules des crottes de looping. Et en effet, ça marche très bien sur l'eczéma du chien ou d'autres choses. Donc, il y a un potentiel thérapeutique énorme. Après, le microbiote, c'est également notre... caractère, notre humeur, notre santé psychique, etc. Donc moi, j'aimerais bien, enfin, si j'ai une grosse pathologie, j'aimerais bien qu'on me donne un microbiote qui permettrait de traiter cette pathologie, mais je voudrais aussi qu'on ait vérifié que ce soit pas le microbiote d'un schizophrène ou je vais un peu loin dans mon raisonnement, mais c'est pour dire que le microbiote est tellement riche et a tellement de pouvoir que on va peut-être traiter un truc, mais qu'on est loin d'avoir compris également toute la portée que ça peut avoir.
Ah oui, donc on va aller résoudre des problématiques de santé, mais ça peut avoir un impact sur notre personnalité, notre identité?
Eh bien, ça peut avoir un impact sur notre humeur, oui, parce qu'on a montré un profil de microbiote spécifique, en tous les cas, qui pouvait favoriser la schizophrénie ou qui pouvait favoriser la dépression ou des choses comme ça. Donc, en fait, on a l'humeur aussi de notre microbiote.
Ah oui, ça, c'est fascinant. On en est où de la recherche, justement, là-dessus?
Bah, on est au début, parce que c'est hyper complexe. Et au fait, dans le microbiote, on étudie les bactéries, mais au fait, dans le microbiote, il y a des champignons, il y a des parasites et il y a des virus. Et que c'est l'alchimie de tout ça qui est responsable de qui on est aujourd'hui et de comment on fonctionne.
Oui, et ça voudrait dire aussi que quand on va aller transplanter, on fait un transfert de microbiote fécal, ces nouvelles bactéries, elles vont aussi cohabiter avec les nôtres, certaines d'entre elles qui étaient peut-être bonnes.
Alors en théorie, on stérilise, on nettoie quand même, on décape bien l'intestin avant, on donne des bonnes doses d'antibiotiques pour avoir bien nettoyé avant, pour justement laisser le terrain un peu comme un transfert de moelle osseuse.
Il n'y a plus rien là. C'est-à-dire que...
on nettoie bien quoi.
D'accord, faut pas oublier de faire le transfert quoi. Si on n'est pas bien, donc il faut. Ok, d'accord, on nettoie bien, antibiotiques à fond, et après, hop, on part d'une page blanche pour aller transférer le microbiote de quelqu'un d'autre chez nous, avec les conséquences que ça peut entraîner et l'impact. Bon, alors positif évidemment s'il y a une amélioration de santé, mais des terrains peut-être encore un peu inconnus sur, vous l'avez dit, la dépression, le caractère, les troubles de l'humeur, etc. Bon, il y a plein de choses. Dès que vous entendez quelque chose à ce niveau-là, Sarah, vous intervenez sur antenne. Si c'est à 7h du matin, vous intervenez, on vous passe dans la matinale. Si on est dans une émission avec Vincenzo Castronovo, vous intervenez et on vous fait, enfin, à n'importe quel moment, 7 jours sur 7, si c'est en plein milieu d'une chanson sur Nutri Radio, vous intervenez, vous nous parlez de ce microbiote, de cette transplantation fécale. On veut tout savoir. Ça marche?
Pas de souci. Bon. Je note.
L'émission, vous la retrouverez en podcast à partir de dimanche, 18h. Et Sarah, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Bon appétit si vous allez passer à table. Et si vous nous écoutez en podcast, eh bien, continuez.
Extra Time, Sarah Mérand sur Nutri Radio.